Il est 18h, vous êtes en direct sur le studio Kalangou. À ce micro, Diallo Kenda, ravi d'être avec vous pour le journal en français. Et c'est tout de suite. Bonsoir, voici nos titres. Après l'attaque terroriste de Toumou mercredi qui a coûté la vie à une dizaine de civils membres de l'équipe de Forako, le chef du village, Mani Orte, souhaite que les décideurs prennent des dispositions nécessaires à la poursuite des travaux de forage indispensables pour l'approvisionnement en eau des habitants de Toumou et alentour. Et Cap Sahel Niger fait don de 1700 copies du code pénal et du code de procédure pénale au ministère nigérien de la justice. À travers cette cérémonie, Cap Sahel Niger veut faciliter le travail des professionnels de la justice. Vous entendrez tout de suite le chef de la mission Cap Sahel Niger, Frank van der Mouren. Aujourd'hui, nous parlerons des recommandations de l'islam qui, dans le verset 33, demande aux épouses du prophète de demeurer dans leur foyer, mais aussi du stress vécu par la femme cloîtrée, selon le psychologue Abdoulaye Soumana. C'est la partie magazine de ce journal. Messieurs, dames, bienvenue. L'attaque perpétrée mercredi par des hommes armés dans la commune de Toumou, région de Diffa, et qui a coûté la vie à une dizaine d'agents de la société de forage Forako, préoccupe le chef du village de Toumou, Mani Orte Boukar, espère que les mesures seront prises pour permettre à cette société de continuer à creuser des forages indispensables pour les habitants qui ont besoin d'eau potable et en quantité. Le chef Mani Orte, joint au téléphone par Alassane Kouzi Mahamadou.
L'intérêt du forage, c'est d'avoir l'eau en quantité, en qualité. Vous savez, pour la plupart des forages qui sont là en train d'alimenter la population, c'est des forages à la tarière. Donc la profondeur n'est pas très importante, 12-15 mètres. Vous savez, avec une telle profondeur, il n'est même pas recommandé quand même de consommer cette eau. D'où la nécessité d'avoir une qualité d'eau beaucoup.
Le forage qui est en train d'être construit, c'est pour alimenter la population principalement en eau.
C'est un forage multivillage, c'est d'abord à l'endroit des populations. Ça devait alimenter en dehors du village principalement, qui est le Brasse, 11 petits villages autour de Toumou. Naturellement, bon, tout ce qui est bétail tout autour va en profiter.
Quel est votre espoir par rapport à ce forage?
En tout cas, quand même que le processus ne s'arrête pas, qu'on ne donne pas l'occasion à ces gens-là qu'ils pensent qu'ils ont pris le pas sur tout ce que l'État est en train de faire. Et moi, c'est malgré ce que c'est très difficile pour Forako et son personnel, part pour l'État aussi, mais quand même c'est de redoubler d'efforts pour que cela soit.
Mercredi, des éléments de la police d'Agadez ont mené une opération dans un quartier périphérique de la ville. Des armes, des munitions et un véhicule ont été saisis au domicile d'un particulier et 5 personnes arrêtées et gardées au commissariat de la police d'Agadez. Une information confirmée à notre correspondant local par le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Agadez, Amadou Moussa Zaki. La mission ECAP Sahel Niger a remis ce matin à Niamey 1700 copies du pénal et du code de procédure pénale au ministère nigérien de la justice. Ce document de 251 pages, dont l'édition a coûté 27 millions de francs CFA, permettra de faciliter le travail des professionnels de la justice. Selon le chef de la mission ECAP Sahel Niger, ce lot porte le nombre des documents à 3000 mis à la disposition de l'administration judiciaire du Niger. Frank van der Mouren au micro de Habibou Garba.
Le symbole fort qu'incarne ce code pénal participe effectivement de cet état d'esprit de notre mission de ECAP Sahel-Niger. La mission a pu, en collaboration bien sûr avec le ministère de la Justice, apporter un soutien décisif à la réalisation de cette nouvelle édition. Donc pour rappel, on parle d'un montant de 27 millions de francs CFA. Ça a été réalisé en trois phases. Donc d'abord la conception de ce travail et validation par les autorités judiciaires. Donc puis impression et remise de 1300 copies en mars de cette année. Et enfin, aujourd'hui, la remise de 1700 copies, portant à 3000 le nombre total de côtes imprimées à ce jour à destination des administrations et acteurs de justice au travers du pays. La justice et les droits de l'homme doivent en effet surtout relever d'un état d'esprit, d'une éthique et d'une culture. Donc une justice équitable est censée s'y appliquer à tous les acteurs et tous les citoyens et est un élément clé d'un état de droit dans son contexte socio-économique, culturel et idéologique.
Depuis 5 mois, 4 responsables de la société de gestion du marché central de Maradi sont en prison à Niamey. Le directeur général et 6 collaborateurs sont poursuivis pour mauvaise gestion, dont une dette de plus de 900 millions. C'est ce que nous apprend Harry Yahya, président du comité de redressement du démarché. Il est au micro de Mohamed Maman.
Nous déplorons 4 arrestations administratives de la SOGEMI et qui sont même transférées à Niamey. Ils sont arrêtés l'ensemble pour mauvaise gestion. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un stade où nous avons un stock d'impayés au moment des faits à 993 millions 19 000 francs CFA d'impayés depuis 2015 jusqu'à 2018. Lorsqu'on a démarré les activités du marché, on a dit chaque bénéficiaire attributeur d'une infrastructure du marché, qu'il s'agisse de magasins, d'entrepôts, de toilettes publiques ou de boutiques, ne doit posséder qu'une et une seule. Mais lorsqu'on a des attributeurs qui ont 16, 19, 10, 9, 8 à eux seulement, vous convenez que là, il y a un détournement d'objectifs et de normes. Vous avez au moins 131 cas des gens qui ont plus de 4 boutiques.
394 millions de francs CFA, soit 600 000 euros, c'est le montant affecté par l'Union européenne au Niger pour lutter contre le choléra à travers un communiqué de presse de jeudi. C'est la seconde aide d'urgence de l'Europe aux populations touchées par la maladie. L'épidémie de choléra signalée à Maradi, Dosso, Zinder et Tawa pourrait potentiellement atteindre Niamey et Difa. À la mi-novembre, plus de 3 812 cas, dont 76 décès ont été enregistrés, rapporte le communiqué. Le nouvel ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne était mardi à Agadez. Hermann Nicolet est allé s'enquérir des activités en cours avec les partenaires locaux, espérant continuer cette coopération vieille de plus de 50 ans. Il est au micro de Moussa Maman.
Je suis là au Niger depuis 3 mois comme nouveau ambassadeur d'Allemagne. C'est ma première visite ici à Agadez pour connaître mieux les activités que nous, en tant qu'Allemagne, nous avons ici à Agadez. Nous avons une coopération avec nos partenaires locaux qui date de plus d'un demi-siècle. Elle est profonde, elle est très vaste aussi. Elle couvre beaucoup de secteurs, l'agriculture, l'irrigation, l'emploi, l'éducation, dernièrement des questions émanant de la migration. Je veux observer tout cela de près. Je vais entendre les réactions de nos partenaires sur cette coopération pour voir dans quelle direction on va continuer cette coopération, quels sont les défis qu'on va confronter ensemble.
Le nouveau bureau de l'Association des institutions supérieures de contrôle ayant en commun l'usage du français était hier face à la presse nationale à Niamey après 2 jours d'échanges. Au micro de Rukayatou Abdourahmane, Didier Migo, secrétaire général du bureau, parle de l'importance des échanges sur le contrôle des finances entre pays francophones membres de l'organisation.
C'est à la fois d'avoir un moment d'échange, de partage, de travail. Donc il est très important que nous puissions bien sûr échanger sur les contrôles que les uns et les autres nous faisons dans nos pays respectifs. C'est aussi l'occasion de faire le bilan de 3 années d'activité et de définir notre programme pour l'avenir. Par exemple, nous avons programmé des séminaires de travail concernant notamment les suites qui peuvent être apportées aux recommandations des institutions supérieures de contrôle. Nous avons également programmé comme sujet à venir le contrôle de la dette publique, définition de la dette, d'ampleur. Et puis, bien évidemment, nous avons des préoccupations constantes, communes. Ces préoccupations constantes, communes, tournent autour de l'indépendance des juridictions financières, de l'ensemble des pouvoirs publics.
Le Festival international de films sur les droits de l'homme a pour thème cette année « Jeunesse et migration ». Pour sa 5e édition, une série de projections de films courts-métrages en lien direct avec le thème est organisée à l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC de Niamey. Notre reporter Rukayatou Abdourahmane était hier sur place. Voici son reportage.
Pour
Pour sa cinquième édition, le Festival international de films sur les droits de l'homme FIFIDO se veut proche de la jeunesse pour la sensibilisation en son et en image sur les dangers autour de la migration. L'IFTIC est le cadre idéal pour que les étudiants puissent comparer les productions cinématographiques du Niger à ceux de la sous-région, selon Beydar Yakouba, promoteur du festival.
Notre objectif était de venir faire des projections auprès des jeunes pour essayer de les sensibiliser par l'image et le son sur le problème de la migration clandestine. L'IFTIC, par excellence au Niger, c'est l'école de formation des journalistes et techniciens de l'audiovisuel et du cinéma. C'est le moment pour les étudiants de l'IFTIC de se comparer aux autres.
Mazou Bonkolé est un étudiant en audiovisuel venu du Bénin pour la circonstance. Il nous fait ici une petite comparaison avec les réalités de son pays.
Au Niger, j'ai constaté une longueur d'avance par rapport à mon pays. Parce qu'ici, les réalisateurs, ils sont solidaires. C'est très avancé par rapport au Bénin. Parce qu'ils ne sont pas solidaires. Alors que la base de toute chose, c'est la solidarité.
Il est à noter qu'au total, 83 films sont sélectionnés pour ce festival, parmi lesquels 11 films nigériens en compétition qui sont projetés hier et 8 autres aujourd'hui, toujours à l'IFTIC.
Suivez les programmes du studio Kalangou partout dans le monde grâce à sa page Facebook.
La page Facebook du studio Kalangou.
J'aime et je partage.
La partie magazine de ce journal à présent, vous avez suivi hier la première partie du magazine qui traite de la question des femmes cloîtrées à domicile par leurs époux. Aujourd'hui, nous parlerons des recommandations de l'islam qui, dans le verset 33, demande aux épouses du prophète de demeurer dans leur foyer, mais aussi du stress vécu par la femme cloîtrée selon le psychologue Abdoulaye Soumana. L'islam est clair, nous dira Dr Nargungu Awasuna, membre du Forum national des femmes musulmanes du Niger. C'est à la femme et à elle seule de décider de rester ou pas à la maison.
L'islam, c'est très clair. Il suffit d'aller dans la sourate numéro 33. C'est à moi de décider que je ne vais pas sortir. C'est pas à quelqu'un de m'imposer, donc de rester à la maison. Parce qu'en islam, il n'y a pas de contrainte. Si j'accepte, je comprends que sortir dehors est beaucoup plus néfaste pour moi que rester à la maison. Je choisis de manière vraiment souveraine. Il n'y a pas, en tout cas en islam, de raison à cloîtrer une femme.
Pour Cheikh Ben Salah, il est demandé aux épouses du prophète de l'islam de rester à la maison. Cependant, le mariage étant un contrat, il est possible d'informer la future mariée. Et si elle accepte, il est clair qu'elle ne pourra pas sortir.
Chapitre 33 du Coran, Suratul Ahzab, au verset 33. Allah subhanahu wa ta'ala demande aux femmes du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de demeurer dans leur foyer. Justement pour les protéger, comme si donc le fait de rester à la maison était adressé uniquement aux épouses du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Dans certaines sociétés, on a tendance, dès qu'on est marié, à garder les femmes au fond de la maison. J'aimerais simplement rappeler que le mariage, c'est un contrat, dit le Coran. Dans ce contrat du mariage, il est possible que l'on informe la future mariée. Si on accepte de se marier dans ces conditions, alors il est clair qu'on ne pourra pas sortir.
Le psychologue Abdoulaye Souna qualifie cette situation de privation de liberté qui peut engendrer le stress et troubler l'équilibre psychologique de la femme cloîtrée au foyer.
Le premier séquelle, c'est d'abord le stress. Le fait qu'elle soit toujours là en train de faire la même chose, ça devient angoissant. Elle devient des femmes irritables. Elle s'enferme dans son dispositif. Et du coup, elle devient comme une mécanique. C'est comme une commande. Elles n'ont pas de personnalité propre à elles-mêmes. Elles sont dans une certaine duplicité de personnalité. Des choses simples amènent des problèmes. C'est des femmes qui n'acceptent pas le jugement. C'est-à-dire, il suffit juste que quelqu'un en parle et ça devient un problème. L'autre élément aussi, c'est la mélancolie. Ça a des conséquences. D'abord, même sur l'éducation des enfants. Généralement, elle devient trop violente. Souvent, c'est des femmes qui tapent leurs enfants. Chaque situation, vous le constatez.
Cheikh Ben Salah et Dr Nangugu Awasuna exhortent les musulmans à apprendre davantage sur l'islam, car l'ignorance est un péché. C'est la fin de ce journal. Je vous dis au revoir. Restez en compagnie de Mokhtar Amadou que vous retrouvez dans le forum de la presse.